Ésaïe. Ésaïe veut venir prier ? Non, Ésaïe n'est pas là. Mais nous avons ces écrits. Nous allons nous tourner dans Ésaïe 14. Nous sommes partis quelques jours retrouver notre pasteur Wayne de Seattle qui venait de terminer une tournée d'évangélisation très originale. Parce qu'en fait, ils utilisaient le swing dancing, le rock and roll. Il y avait 20 à 30 personnes, je crois, et il y avait tout un petit groupe qui faisait la musique et ils se mettaient dans les rues, sur les places. Ils sont allés à Berlin, à Leipzig, à Salzbourg, et ils utilisaient la musique, la danse pour rassembler des curieux et ils leur annonçaient l'amour de Jésus et de l'évangile, du fait qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et apparemment, ils ont eu beaucoup de succès, beaucoup de gens ont accepté le Seigneur de cette façon nouvelle et tout à fait inattendue dans beaucoup d'églises où on pense que le rock'n'roll vient du diable. Alors les paroles, bien sûr, c'était des paroles édifiantes. Et on s'est retrouvés donc en Allemagne, dans le parc de Berchtesgaden, pas loin de Salzbourg. Et c'est un endroit de carte postale, un endroit d'une beauté impressionnante. J'ai pris pas mal de photos, je ne sais pas si elles rendront, mais c'était mieux que les... Désolé pour ceux qui travaillent à la poste ici, mais c'était encore mieux que le calendrier des postes. Vous savez, où on vous met des jolies photos de montagne. Et peut-être que certains d'entre vous ont réagi quand j'ai dit le nom du parc de Berchtesgaden. En fait, ce qui est curieux, c'est que c'est à deux pas du nid d'aigle de Hitler. C'est le nom que vous avez peut-être entendu, un nom que vous avez peut-être entendu associé à Hitler qui, du haut de son nid d'aigle, de la vue et de la beauté de cet endroit, préparait les plans les plus maléfiques, parmi les plus maléfiques qu'on ait vus dans l'histoire de l'humanité. Et c'est impressionnant de voir comment, au milieu de la beauté, le mal peut germer, se développer. Et c'est ce qu'on va voir en fait dans notre passage aujourd'hui, dans Ésaïe 14. On va parler d'Israël, de quelques prophéties contre l'Assyrie, contre les Philistins, mais aussi une prophétie contre le roi de Babylone. Lisons ensemble à partir du verset 1 du chapitre 14. On vient d'entendre parler des prophéties contre Babylone. Et Ésaïe continue en disant « Car l'Éternel aura compassion de Jacob ». Il choisira encore Israël et il les rétablira sur leur sol. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les conduiront vers leur pays et la maison d'Israël les recevra en héritage sur le sol de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Et ils subjugueront leurs oppresseurs. Ésaïe a annoncé la punition d'Israël et de Juda, les deux parties du royaume qui avaient suivi le règne de Salomon. en expliquant que Dieu allait utiliser le royaume de l'Assyrie pour les punir, mais aussi le royaume de Babylone. Et Dieu utilise, on l'a vu, des ennemis de son peuple pour juger son peuple. Mais si vous lui appartenez, dans l'Ancien Testament, c'était si vous étiez donc de juifs. Pour le Nouveau Testament, c'est si vous avez reconnu Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur. Il vous corrige des fois, mais son amour pour vous ne cesse jamais. Et là, il lui dit qu'il va avoir compassion de Jacob, c'est une façon de désigner Israël. Il choisira encore Israël. Malgré tout ce qu'ils ont fait, il va persévérer dans le fait qu'il va soutenir son peuple. J'aime bien le mot « encore ». Il choisira encore Israël. Il y a des fois où nos péchés font que on se demande si, d'accord, Dieu nous a choisis, mais je ne suis pas trop sûr qu'il me choisirait de nouveau après les choses que j'ai faites ou les choses que je n'ai pas faites, que j'aurais dû faire. Mais là, Dieu les encourage en leur montrant le sort de leurs ennemis. Cette portion de prophétie sera partiellement réalisée lorsqu'ils reviendront d'exil, mais de façon ultime, il y a toujours cet accomplissement immédiat ou historique, et puis un accomplissement ultime à la fin des temps. Et ça, c'est aussi un accomplissement de la fin des temps, où Israël recevra en héritage sur le sol de l'Éternel, des peuples de toutes les des gens de tous les peuples viendront, adoreront le Seigneur. Ça, c'est une prophétie qui sera complètement accompli à la fin des temps. Et puis nous arrivons au verset 3. Alors, le jour où l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations et après le dur esclavage qui te fut imposé, alors tu prononceras cette sentence contre le roi de Babylone et tu diras : quoi donc ? L'oppresseur n'est plus ? La tyrannie a cessé ? L'Éternel a brisé la massue des méchants, le bâton des dominateurs ? Celui qui dans son courroux frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations et poursuivit sans ménagement, tout le pays jouit du repos et du calme, on éclate en chants d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent à ton sujet. Depuis que tu es tombé, le bûcheron ne monte plus contre nous. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs, pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille pour toi les défunts, tous les guides de la terre, il fait lever de leur trône tous les rois des nations, tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi s'étend une couche de vermine, et les vers sont ta couverture. Quoi donc ? Tu es tombé du ciel ? Astre brillant, fils de l'aurore, tu as battu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, au plus profond d'une fosse. Ceux qui te voient fixent leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait ses villes et ne relâchait pas ses prisonniers ? Tous les rois des nations, oui, tous sont couchés avec honneur, chacun dans sa maison. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau horrible, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre piétiné. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as tué ton peuple. On ne mentionnera plus jamais la race des méchants. préparé le massacre des fils à cause de la faute de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'hostilité. Je me lèverai contre eux, oracle de l'Éternel des armées. Je retrancherai le nom et le reste de Babylone, ses descendants et sa postérité, oracle de l'Éternel. J'en ferai le domaine du hérisson et du marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, oracle de l'Éternel des armées. Un passage qui a une dimension historique, il est question, Dieu demande à Ésaïe de prononcer une sentence, une punition, un verdict contre le roi de Babylone. Et c'est vrai que nous savons que Babylone a été renversée par l'empire des Mèdes et des Perses. On lit ça dans Daniel 5, où le roi Belshazzar, qui avait osé utiliser des ustensiles utilisés dans le culte de Dieu au temple de Jérusalem, Belshazzar a été détruit en quelques heures. Les Mèdes et les Perses, on peut regarder rapidement Daniel 5. Vous vous souvenez qu'il y avait un grand banquet qui avait été organisé par ce roi qui descendait du roi tout-puissant Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar. Apparemment, lui et son père, Belshazzar et le père de Belshazzar, qui était le fils de Nebuchadnezzar, ont régné ensemble. Et il était tellement sûr de sa force, de la puissance de son empire, qu'il sache qu'il y avait des ennemis pas loin, ils font la fête, et c'est là qu'il y a l'expression, d'où vient l'expression, quelque chose est écrit sur le mur. C'est cette fameuse main, verset 24, qui avait rempli de peur le roi lorsqu'il avait vu cette main qui écrivait sur le mur, Méné, Méné, Tekel, Parsine, qui voulait dire tu as été compté, tu as été pesé, et ton royaume va être divisé, donné aux Mèdes et aux Perses. C'est Daniel qui est capable seul de donner le sens de cette écriture. Et cette nuit même, cette nuit-là, le roi des Chaldéens a été tué. L'histoire nous explique que les Mèdes ont détourné l'Euphrate pour pouvoir rentrer par des passages souterrains qui commençaient dans le lit du fleuve. Et donc il y a cette destruction de Babylone a bien eu lieu. Et l'oppresseur, celui qui avait emmené le royaume de Jérusalem, le royaume du sud, avec capitale Jérusalem, a été détruit. Il était impressionnant. Et à la suite de sa chute, c'est les grandes réjouissances. Le royaume de Perse va laisser les Juifs retourner, reconstruire le temple en Israël. Et là, en fait, certains pensent qu'il n'y a qu'une prophétie historique. Mais vous avez remarqué peut-être en lisant à partir du verset 11, il y a beaucoup voient dans la description de la chute du roi de Babylone, en fait, une prophétie contre Satan. Prophétie contre Satan, et aussi elle nous donne une explication sur l'origine de Satan, sur l'origine du mal, sur l'origine du péché. Et il y a deux grands passages qui parlent un peu de l'histoire de Satan, son origine. Il y a ce passage d'Ésaïe 14, Et il y a un autre passage dans le prophète Ézéchiel. Et si c'est 14, vous multipliez par 2, vous arrivez à Ézéchiel 28. C'est un petit moyen mnémonique ou technique pour retrouver le passage qui, lui aussi, regardez avec moi le chapitre 28 d'Ézéchiel, c'est la page 846 dans la Bible à la colombe. Là, il est question du roi de Tyr. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, ces rois, comme l'Antéchrist sera animé par Satan, ces rois qui opprimaient le peuple de Dieu étaient animés par Satan. Et lorsque l'on voit l'acharnement qu'Hitler a eu contre le peuple juif, on voit aussi une dimension spirituelle. Ce n'est pas par hasard que Hitler s'est acharné sur les Juifs. L'antisémitisme, la haine contre le peuple de Dieu, c'est une dimension spirituelle. Dès le départ, lorsque Jésus était né, Hérode voulait faire mourir tous les enfants de peur de voir le roi d'Israël, le roi des Juifs dont on lui avait parlé, arriver sur la scène. Et dès le départ, dès la Genèse 3.5, 3.15, lorsque Dieu a promis à Satan qu'il la semence de la femme allait lui écraser la tête, même s'il lui écrasait le talon de Jésus, le talon de sa descendance, parlant de Jésus, un jour, Satan va être détruit. On a l'habitude de penser au jour et à la nuit, au froid, à la chaleur, au mensonge, à la vérité. Et si je vous dis quel est l'opposé de Dieu, beaucoup auraient tendance à me dire, y a Dieu, puis il y a Satan, il y a le bien, il y a le mal. C'est complètement faux. C'est un mensonge. Satan, il est dit qu'il est le père du mensonge et qu'il est un assassin. Il voudrait nous faire croire qu'il a la même puissance que Dieu. Et ça, c'est une vision qui remonte à l'Antiquité. Zarathoustra, ainsi parlait Zarathoustra, le manichéisme où il y a d'un côté le bien, les forces du bien, de l'autre côté les forces du mal. Et il y a un combat permanent entre ces deux forces et on n'est pas trop sûr de qui va gagner. Parce que pratiquement, c'est deux poids lourds et on ne sait pas qui va gagner. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Satan, Pierre nous dit dans son épître, 1 Pierre 3, que c'est un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Un lion rugit pas quand il est à la chasse, parce que sinon il se ferait repérer de loin et les animaux partiraient. Il rugit lorsqu'il est sûr d'avoir sa proie à lui. Lorsque l'animal est terrifié ou coincé dans un coin, c'est là qu'il rugit. Et il rugit en ce moment pour vous faire peur, pour me faire peur. Parce qu'il sait que s'il nous paralyse, bien que Jésus ait eu la victoire à la croix, il mène un combat d'arrière-garde d'usurpateur. Il essaye de garder le pouvoir sur vous. Et il est vrai qu'aujourd'hui, c'est lui qui mène la danse. Je vous le dis souvent, mais lorsqu'on vous demande pourquoi est-ce que Dieu permet les guerres, la corruption, le viol, les meurtres d'enfants, souvent le chrétien ne sait pas trop quoi répondre et se dit c'est vrai que je sais pas qu'est-ce qui se passe et c'est une raison, c'est une excuse que cherchent beaucoup de gens pour se dire je ne veux pas croire dans ton Dieu. Vous devez être capable de dire que le monde tel qu'il est, vous devez savoir que le monde tel qu'il est n'est pas le monde tel que Dieu l'a voulu. C'est le monde tel que l'homme, en se rebellant contre Dieu, en décidant d'écouter Satan, l'a rendu. Et maintenant, nous vivons le temps de la patience de Dieu. Le prince de ce monde, le prince des puissances de l'air, Jésus lui-même parle du prince du monde, de ce monde. Paul nous parle du prince de la puissance de l'air, de la puissance, le prince de ce monde aussi. C'est pas Dieu. Dieu laisse pour l'instant Satan avoir une grande liberté pour mettre la zizanie, mettre la pagaille, mettre. Pourquoi ? On est en droit de se poser la question. Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas tout de suite ? Parce que le péché est entré dans le monde. Lorsque Satan a convaincu Adam et Ève de l'écouter, ils ont passé le titre de propriété à Satan. Lorsque Jésus a été tenté par Satan, Satan a montré à Jésus les royaumes du monde qui lui appartenaient. Jésus n'a pas dit « c'est pas vrai ». Jésus savait que pour l'instant, c'est Satan le prince de ce monde. Il est dit que dans Hébreux 2, 8, que tout a été soumis à Jésus-Christ, mais, est-il ajouté, on ne voit pas encore que toute chose lui soit soumise. Si Dieu revenait maintenant et mettait les choses en ordre, tous vos amis qui ne sont pas encore chrétiens périraient pour l'éternité, seraient pour l'éternité en enfer, loin de Dieu. Maintenant, nous vivons le temps de la grâce de Dieu. Et ce temps que Dieu donne à ses gens, il nous dit aussi de l'utiliser pour annoncer la bonne nouvelle. Pour sauver le plus grand nombre de personnes. Si Jésus était revenu mettre les choses en ordre il y a 25 ans, eh bien je serais perdu pour... Non, 30 ans, disons. Je serais perdu pour toujours. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne sont nés de nouveau qu'il y a quelques années, peut-être quelques mois. Remerciez Dieu pour sa patience. Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la connaissance de Dieu, de son amour et de la repentance. Et donc, cet être créé, c'était un ange. Dans Ézéchiel, nous voyons, là aussi, on voit très bien que lorsqu'il est dit au verset 12 d'Ézéchiel, verset 28, il est dit « Tu entonnes une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras aussi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » On sait que le royaume de Tyr, là, on est déjà passé en Éden. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, diamants, etc., d'émeraudes, d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin, un de ces anges protecteurs aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes fausses, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la désolation à cause de toi. Tu seras un objet d'épouvante. Tu ne seras plus jamais rien. Le même être créé par Dieu. Encore une fois, c'est pas deux poids lourds qui s'affrontent, c'est le Créateur et une créature qui s'est rebellée. Une créature, nous l'avons vu dans ce passage d'Ésaïe 14, c'est l'orgueil qui a été sa fin. Il a voulu monter aux cieux, élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu, ce sont les autres anges. Il a voulu être semblable au Très-Haut. Alors, Dieu a dû le faire tomber, chuter. Satan, et là je vais bousculer une image que vous avez dans votre tête, il n'est pas en enfer en ce moment. Alors là, on ne comprend plus. Satan, avec le survêtement rouge, la queue en fourche, et puis le trident qui fait rentrer les gens. Non, 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 non. Ça, c'est la légende populaire. Ça remonte au Moyen-Âge, aux imaginations. Dieu, en ce moment, il a même accès au ciel. Il suffit de voir le livre de Job. Il se promène sur la terre, il se promène dans les cieux. Le livre de Job nous ouvre une petite fenêtre sur ce qui se passe. Dieu se vante de Job et Satan lui dit « Bien sûr, tu le bénis, laisse-le-moi un peu. » Et Dieu veut prouver au monde et à Satan qu'en fait Job lui est fidèle et il laisse Satan causer des malheurs dans la vie de Job. Mais cet orgueil, ce désir d'être aussi grand que Dieu, c'est avec ça déjà qu'il a fait tomber l'homme. Encore une fois, on a dit que l'orgueil est peut-être le plus terrible des péchés. Lorsque c'est l'auteur C.S. Lewis qui disait que des pécheurs peuvent, des gens qui se livrent à la débauche, il peut y avoir entre eux, il peut y avoir une certaine camaraderie. Mais l'orgueil, il n'y a pas de camaraderie. L'orgueil, on veut être premier tout seul. Et il a donc fait chuter Satan. Jésus voyait la chute de Satan dont il est question dans l'Apocalypse 12. Il disait, j'ai vu Satan tomber dans Luc 10 ou 12. Et une des questions, c'est pourquoi est-ce que Satan s'est rebellé? Alors là, je vais rentrer dans un domaine qui n'est pas du domaine biblique. C'est simplement le domaine de la supposition, mais ça peut expliquer peut-être des choses. Il y a des éléments qui soutiennent ce genre de vision. Il y a même des éléments dans la tradition hébraïque du Talmud qui auraient tendance à conforter cette approche. C'est qu'en fait, un jour, Dieu a décidé de créer un être à son image, l'homme. Satan, qui était le chef de la chorale, qui était un ange de toute beauté, n'était pas créé à l'image de Dieu. C'est un privilège que l'homme a d'être créé à l'image de Dieu. C'est un privilège remarquable que nous méprisons bien souvent. Et lorsque Satan a découvert ce plan de Dieu, Lucifer, fils du matin, la beauté du matin, la beauté de Lucifer, il s'est mis en colère, ou il s'est énervé contre Dieu. Il a dit quoi ? Surtout lorsqu'il a entendu que les anges allaient devoir servir ces nouvelles créatures. Les anges sont des serviteurs des hommes. Et là, il s'est dit quoi ? Tu vas, à partir de la poussière, tu vas créer un être fait à ton image, et moi, je vais devoir servir cet être. On peut penser que ça a commencé comme ça. Encore une fois, il n'y a pas de texte biblique qui détaille ce processus. Mais l'orgueil de Satan, de toute évidence, a été atteint. Et là, sa perte est annoncée. L'enfer n'est pas un endroit qui est habité pour l'instant. Il a été préparé par Dieu pour Satan et ses anges. Il est dit dans l'Apocalypse qu'un tiers des anges vont suivre Satan dans sa rébellion et qu'ils vont être précipités dans l'enfer, et l'enfer sera envoyé dans le lac de feu et de soufre dans l'Apocalypse. Donc là, on a dans cette prophétie une explication comment Satan est, comment le mal est entré dans le monde, comment Satan va être une fois pour toutes éliminé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une espèce d'oraison funèbre, mais avec un sens de l'humour, quoi. Et ce qui est le plus terrible, c'est de voir que les gens qui vont réaliser, lorsqu'ils vont le voir tomber, la réaction, ça veut dire « Quoi ? On s'est laissé mener par le bout du nez par cela ?» Il est question du roi de Babylone au verset 3, qui donnait l'Éternel va donner du repos après les fatigues, les agitations et le dur esclavage qui fut imposé. Satan, aujourd'hui, essaye de rendre esclaves les gens, de les garder en esclavage. Jésus est mort à la croix, nous sommes libérés de cet esclavage. Mais si nous ne le savons pas, nous pouvons continuer de vivre dans cet esclavage. Vous dites aujourd'hui, non, j'ai pas d'esclavage. Je ne suis pas un esclave. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous êtes accro ? Est-ce que vous êtes accro au travail ? Au loisir ? Est-ce que vous êtes accro à l'argent ? Vous êtes toujours prêt à faire quelque chose pour avoir davantage ? Est-ce que vous êtes accro à l'alcool ? Est-ce que vous êtes accro à la pornographie ? C'est un problème qui est du même ordre que l'alcoolisme. Passez un moment, si vous ne pouvez plus vous passer de ça, c'est que c'est avancé. Aujourd'hui, on a tendance à dire qu'il faut aller voir les spécialistes, les psychologues. Je suis convaincu que Dieu peut vous guérir, nous guérir, si on a ce problème, ou d'autres problèmes, l'alcoolisme aussi. Le danger, c'est de penser qu'on n'est pas capable et de se détourner de ses problèmes tant qu'il n'y a pas des soins professionnels, entre guillemets. Et ça, c'est un mensonge de l'ennemi. L'Église en elle les ressources en personne, en prière, en jeûne, en conseil biblique, pour guérir, soigner tous ces problèmes. Parce que c'est Jésus qui guérit. C'est pas le psychologue, c'est pas le psychanalyste, c'est Jésus et lui seul qui va vous guérir, qui va nous guérir. Il y a ensuite une prophétie contre l'Assyrie, versets 24 à 27. En fait, c'était souvent dans les prophéties, l'ordre chronologique n'est pas respecté. Et c'est d'abord l'Assyrie qui va être jugée avant que Babylone elle-même soit jugée par les Mèdes et les Perses. Et il y a quelque chose qui est annoncé, c'est verset 27, « L'Éternel des armées a pris cette résolution, qui l'annulera ? Sa main est étendue, qui la détournera ?» Et puis une prophétie contre les Philistins, qui sont les ancêtres en fait de la région de la Palestine. Le mot Palestine vient du latin qui désignait les Philistins. C'était la bande de Gaza de l'époque. Et là, ils vont être menacés, ils vont être opprimés par Tiglas, Pilzer, le serpent et sans doute ses fils Sargon et Sennachérib. Si vous voulez vous lancer dans une étude détaillée de l'histoire, sachez que tout est là, tous les éléments, les noms des rois, les dates. Ça demande un peu de travail parce que c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de siècles de rois qui sont notés. Mais je voudrais simplement revenir sur Satan et vous dire qu'en fait, vous ne devez pas avoir peur de lui. Certains pensent des fois qu'ils sont possédés, même des chrétiens pensent qu'ils peuvent être possédés par Satan. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas pour plusieurs raisons. Plusieurs versets. 2 Corinthiens nous dit qu'il n'y a rien à faire entre Dieu et Bélial, ou un autre nom pour le dieu Baal. Et puis il y a ce verset que ceux qui se baptisent, se font baptiser avec moi apprennent par cœur, 1 Jean 4:4. C'est l'apôtre Jean qui est dans son 4:4 qui passe en tête, 1 Jean 4:4. Et qu'est-ce qu'il dit 1 Jean 4:4? Que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est au dehors. Vous pouvez être sous l'oppression de Satan. Mais si Jésus est en vous, la Bible nous explique que Satan ne peut pas être là. S'il n'y a personne, si vous avez le vide et que vous chassez un démon de quelqu'un et qu'il y en a, 7 peuvent revenir, mais pas si Jésus est là. N'allez pas prendre autorité sur les démons autrement qu'en passant par Jésus-Christ. L'archange Michel, il nous est dit dans Jude, lui-même, lorsqu'il y a une dispute sur le corps de Moïse, ne parlait pas directement à Satan, il invoquait Dieu contre le diable. Le diable est puissant, même s'il a été battu à la croix, mais vous n'avez nullement à avoir peur de lui. Invoquez le nom de Jésus. S'il frappe à la porte, allez dire à votre grand frère d'aller lui ouvrir. Jésus, tu vas aller ouvrir à Satan ? Wow ! Il ne va pas faire long feu. C'est un sujet sérieux. Je sais que parmi nous, il y en a sans doute qui ont lutté contre des péchés, contre des choses difficiles. Et je respecte ça. Mais je me base sur la Bible pour dire que vous n'avez pas à le craindre. Son plus grand désir, c'est de mentir, de vous faire croire que vous êtes sous sa coupe. Mais gloire à Dieu, par Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. La nature même va être heureuse de la chute de Satan. Là, il est question des bûcherons qui venaient couper tous les arbres. Les arbres se réjouissent, la nature se réjouit de la fin de Satan, de la loi de destruction qui est dans le monde depuis que le péché a entaché le monde et la nature dans laquelle nous vivons. Mais, encore une fois, cette prophétie, ça doit être une prophétie d'encouragement. Savoir que votre ennemi, il est notre ennemi, il va être détruit. Plus de violence, plus de corruption, plus de mensonges, plus de viol, plus de meurtre, plus de souffrance, plus d'oppression même. Mais encore une fois, allez dans la Bible. Ne vous laissez pas impressionner par... Certains aiment bien se donner de l'importance en exorcisant toutes sortes de démons. Les démons, c'est aussi une excuse des fois pour ne pas se prendre en charge devant Dieu, dire « Je pardon Seigneur, j'ai péché, je te demande ton aide pour avancer avec toi. » Il y en a qui ont une excuse pour tout. Il y a le démon du tabac, il y a le démon de la pornographie. Non, Dieu nous a tout donné et nous avons la victoire en lui. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Donc je veux vous encourager ce matin. Il y a des problèmes, il y a des oppressions, mais le roi de Tyr, le roi de Babylone, qui étaient inspirés et qui représentent celui qui est le roi de ce monde pour l'instant, il est vaincu à la croix et nous allons pouvoir dépouiller et avoir la victoire en Christ. pas dans nos forces, seulement avec Jésus en nous. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour la victoire à la croix. Tu es merveilleux. Tu as accepté de venir mourir pour nos péchés. Et le Père t'a ressuscité. Tu es ressuscité d'entre les morts. Et par là, tu nous garantis que la croix est le remède à nos péchés. Seigneur, aide-nous à avoir un respect de Satan pour sa puissance, mais en même temps, une bonne compréhension de ce qu'il est il n'est qu'une créature. Et lorsque nous le verrons déchu, nous ne comprendrons pas comment nous avons pu être ainsi bernés, d'avoir eu aussi peur de lui. Seigneur, que ce soit ton amour qui nous motive, pas la peur de l'ennemi. Seigneur, sois glorifié dans nos vies, dans nos cœurs maintenant. Te remercions parce que tu es un grand Dieu. Tu nous as créés pour avoir la communion avec nous. Tu nous as créés à ton image. Quel privilège! Les anges, il est dit, se posent des questions. Ils regardent d'en haut des fois pour voir comment est-ce possible. Ces êtres créés à partir de la poussière, tu les as mis pour un peu de temps sous les anges, mais un jour, ce seront eux qui régneront avec toi. Seigneur, aide-nous à avoir une saine doctrine de toutes ces choses. Aide-nous à connaître ta parole, à savoir l'analyser, la mettre en perspective. Aide-nous aussi à partager ces bonnes nouvelles avec ceux qui nous entourent, celui qui nous opprime, celui qui nous fait peur, celui par qui le péché est entré dans le monde. Seigneur, tu vas le détruire, tu l'as déjà vaincu, mais tu vas l'éliminer physiquement, Seigneur. Un jour, il sera jeté dans l'étang de feu. Et nous serons pour toujours avec toi. Amen.